Donc, bienvenue à vous toutes et vous tous. Voilà, on va essayer de... Il est 12h31, ça va quand même. Non, c'est surtout la fin qu'il faut essayer de respecter. C'est pour ceux qui veulent retourner ensuite à leur rendez-vous. Donc, on avait choisi donc avec Regina toute cette série, finalement, de vocation, c'est-à-dire d'appel. Vocation, c'est un appel, personnel ou plus diffus, à faire quelque chose, à avancer, qui vient de Dieu, en fait. C'est un peu la définition en trois mots, finalement. Alors là, j'ai pris l'appel des premiers disciples dans l'évangile ou dans les évangiles. Alors j'ai surtout suivi donc l'évangile selon Luc, selon Saint Luc, à partir du chapitre 5. Alors j'ai mis en fait un long passage, hein, c'est jusqu'au début du chapitre 6, parce que ça va du premier appel finalement, avec Jésus qui rencontre Pierre, Jacques et Jean, qui vont être les trois premiers disciples. On va voir un petit peu, est-ce qu'ils deviennent apôtres, est-ce qu'ils ne deviennent pas apôtres, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, jusqu'à la fin du passage, là, au chapitre 6, où vraiment il les nomme comme apôtres, ceux-là, plus quelques autres aussi, donc ça fait une douzaine d'apôtres, selon ce texte. Alors, entre les deux, peut-être que on verra peut-être aussi certaines figures du disciple, figures de ce que peut-être on attend de nous, on attend des disciples. Alors, la question n'est pas si simple que ce qui peut sembler. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, des disciples et des apôtres. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous savez? Parce que souvent, ça correspond à une des possibilités, souvent quand même plutôt à celle de Luc, je pense, hein, effectivement. Donc, Jésus fait des disciples qui s'assemblent. C'est vrai que ça, déjà, c'est assez étrange. À certains, il dit « suis-moi », à d'autres, il les rencontre et il dit au contraire « tu... » Des fois, ils le suivent, des fois, il leur dit « ben non, vas-y, reprends ton chemin, avance ». Donc, déjà là, si vous voulez, on peut être disciple du Christ, disciple de Jésus, et tout quitter pour le suivre. D'autres continuent leur chemin, en fait. Ensuite, les apôtres, il nous semble que c'est un petit peu une fonction particulière, un petit peu, voilà, hein, c'est un peu des, comment dire, une vocation particulière qui est réservée à quelques-uns, qui sont choisis, qui sont nommés. Bonjour.
Oui, la vocation religieuse, enfin...
Une sorte de vocation religieuse à temps plein, d'être apôtre, et puis de... Le mot apôtre, hein, ça veut dire envoyé. Donc, on les serait spécialement sélectionnés pour être envoyés en mission, quoi, pour aller annoncer l'évangile partout dans le monde. Et alors ensuite, est-ce qu'il y a encore des apôtres après le Christ? Bon, c'est un peu discuté.
On pense que les catholiques, ils disent les évêques sont les successeurs des apôtres.
Oui, mais ils les disent pas apôtres quand même. Ils disent qu'il y a une succession apostolique qui se transmet, un peu comme, vous savez, comment dire, comme quand on joue à chat et à la souris, au chat dans la cour d'école. Si quelqu'un, un apôtre, vous touche, vous devenez apôtre à votre tour. Donc ça marche comme ça, la succession apostolique. Chez nous, c'est plus par la foi, la succession apostolique. C'est quand on a la foi des apôtres, qu'on s'en saisit, qu'on devient apôtre directement de la part de Dieu, dans un sens. Hein. Mais alors ensuite, est-ce qu'il y a donc une catégorie d'apôtres? Il faudrait prendre d'autres textes que ceux-ci, finalement. En tout cas, Paul, l'apôtre Paul, justement, on dit l'apôtre tout court, hein, c'est l'apôtre Paul dans la littérature. Donc l'apôtre Paul, lui, c'est par une relation mystique avec Jésus, sans l'intermédiaire de l'Église, des autres apôtres. C'est pour ça que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre préféré des protestants, parce que c'est plutôt cette idée-là, si vous voulez. directement de la part de Dieu. Et au bout de quelques années, il dit, bon, quand même, hein, on n'est pas des chiens, on va quand même aller voir les autres. Et donc, après plusieurs années à évangéliser, il va aller voir à Jérusalem les autorités. Mais alors, justement, quand on regarde de près ce qui se passe, c'est souvent un peu plus compliqué que ce schéma, si vous voulez, des 12 apôtres de Jésus, et puis il y en a un, donc Judas, qui perd sa place parce qu'il trahit, et il nomme un 13e, un nouvel apôtre, qui est Matthias, en tirant au sort. Général, dans l'Église, on a oublié ce mode de sélection, de tirer avec des dés pour choisir le pasteur, l'évêque et le pape, mais peut-être ça vaut mieux. Même pour Polytechnique, on pourrait, ça serait plus sympa que de faire subir aux élèves des longues préparations et puis des concours épouvantables. On tirerait au sort sur le numéro d'INSEE les 300 gagnants de l'année, ça pourrait faire aussi. Je ne suis pas sûr que ce serait... Oui.
Ça serait un peu difficile.
Ah, je ne sais même pas... Est-ce qu'ils ont fait une prière? C'est possible, oui.
Je l'ai relu il y a 2-3 jours.
Dans le livre des Actes, oui.
Oui, ils disent qu'ils ont fait une prière.
Ils font une prière pour s'en mettre à Dieu et ensuite, matériellement, ils tirent au sort.
Il y a une présélection. Ils choisissent quand même déjà... Des gens qui ont suivi Jésus, c'est quand même déjà prérequis quand même, ça permet de ne pas prendre n'importe qui non plus, puis après ils tirent au sort.
Mais je crois qu'il faut qu'ils se portent candidat quand même pour le tirage au sort. Enfin,
ah là non, je crois pas. Matthias ne se porte pas candidat, ils choisissent des gens qui avaient suivi Jésus, il y a une prière, et puis après c'est les dés qui l'emportent.
Hein. Oui. Ah bon, je croyais que finalement il y en avait deux, que l'autre s'appelait Joseph, pas. Non
Non, je crois pas.
Justus. Ah bah si, si, si.
Justus. Justus. Ah, il y a Justus qui perd le...
On revoit une départ ensuite.
Mais c'est des présentations volontaires.
Justus, si on le revoit dans...
Acte 1.
Justus, si on le revoit quand même, on le revoit ensuite dans des lettres de Paul. Justus. Mais enfin, bref. Il y a donc le 13e, après il y a Paul... Et puis, dans le début de la lettre aux Romains, Paul parle d'apôtres qui sont de ses amis. En particulier, il y a une femme qui est apôtre, visiblement. Dans la liste des personnes que Paul salue comme apôtre, il y a une femme. Donc, c'était un peu plus large. Mais alors, bon, est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue pas? Est-ce que c'était comme ça? Si vous voulez, historiquement, c'est quand même assez discuté. Parce que, si l'on regarde... Bon, là, dans l'Évangile selon Luc, vous voyez, à la fin du passage que je vous ai mis, voilà, fin du chapitre 12, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Donc là, c'est comme vous disiez, avant de choisir Matthias, quand même. Ou alors, donc c'est 6-12, c'est à la fin, tout à fait à la fin du texte, au verso. Et bonjour, madame. Il y a une petite feuille pour vous, si vous voulez, et puis il y a des chaises. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Donc c'est le premier camp des disciples. On va voir un peu comment il les recrute et qu'est-ce que ça peut être. Il en choisit 12 à qui il donna aussi le nom d'apôtres. Et puis il donne une petite liste d'apôtres. Donc ça, c'est dans l'Évangile selon Luc. Mais dans les autres évangiles, vous voyez, c'est un peu différent. Alors dans Jean, il n'y a pas tellement d'apôtres, si vous voulez. Il ne parle pas tellement des nominations d'apôtres. Il y a une fois où il parle des 12, mais... C'est, dans Jean, ça n'a pas l'air tellement la question, si vous voulez. Ensuite, dans Matthieu, il appela ses 12 disciples. Donc, vous voyez, ils sont appelés disciples. Ils ne sont pas appelés apôtres. Et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie, toute infirmité. Puis voici le nom des 12 apôtres. Là, il leur donne le nom d'apôtres. Voilà. Et puis, tels sont les 12 que Jésus envoya. Donc, c'est l'idée aussi d'être envoyé, puisque le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Donc là, l'idée quand même, les apôtres, ils sont envoyés quand même beaucoup avec un pouvoir de faire des miracles. Et puis, on va les voir, eh bien, partir un petit peu pour annoncer l'évangile. Dans l'évangile selon Marc, Jésus monte sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtre, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec l'autorité pour chasser les démons. Donc là, l'apôtre, c'est d'abord pour qu'ils soient avec Jésus, c'est quand même amusant. Puis ensuite, il les envoie proclamer, c'est-à-dire vraiment annoncer l'évangile, et puis aussi le pouvoir de faire les miracles. Donc là, vous voyez, la fonction, elle est un peu triple, mais c'est d'abord pour être avec Jésus, pour être formé auprès de lui, peut-être, d'abord. Peut-être aussi pour l'accompagner dans ce cheminement. Et puis, avec ce pouvoir, toujours, de faire des miracles. Alors ensuite, si on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, bien sûr, là, on parle des apôtres, parce que dans les évangiles, finalement, à part l'épisode où ils partent un peu en mission, ils ne font pas grand-chose, les apôtres, ils sont un peu nuls, ils n'ont pas tellement de distinction entre les disciples et les apôtres. Ils sont dans la chambre haute à la fin, mais il n'y a pas tellement de choses spéciales. Dans le livre des Actes des Apôtres, on les voit à l'œuvre, mais finalement, les douze et puis la plupart des apôtres disparaissent. Il reste quelques-uns, il reste Pierre, il reste Jean, qu'on voit. Sinon, on voit que le chef de l'église de Jérusalem, ça va être Pierre quelque temps, mais ensuite il ne le sera plus. Ça va être Jacques, le frère de Jésus, frère de sang, ou
cousin germain, quoi.
Ou cousin germain, ou demi-frère, ou on ne sait pas, hein. Peut-être un fils de Joseph, peut-être le fils de Joseph et Marie, enfin en tout cas on sait que c'est un frère de Jésus, et que c'est à ce titre-là qu'il devient chef de l'église de Jérusalem, quand Pierre est chassé de l'église de Jérusalem comme chef. Mais voyez, les apôtres, ils n'ont pas tant de place que ça finalement, même dans les Actes des Apôtres, hein. Parce que Pierre devient un simple évangéliste, il l'appelle quand même les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques, qui est le frère du Seigneur, et Jean. Et puis Paul est la quatrième colonne, finalement. Mais voyez, dans ces quatre colonnes, il n'y en a que deux apôtres, et puis deux qui n'étaient pas dans les douze de Jésus. Et puis les autres, historiquement, on connaît quand même quelques apôtres qui sont allés à gauche ou à droite. Il y a peut-être donc Jacques qui aurait peut-être évangélisé l'Espagne, selon Saint-Jacques de Compostelle, selon la légende. On sait que Barthélemy aurait peut-être évangélisé du côté de l'Inde, hein, dans la Pondichéry ou chose comme ça. Et il restait une communauté qui connaissait pas la Trinité, parce qu'il date d'avant la Trinité, qui est inventée au 2e, 3e, 4e siècle. Et puis qui parlait, qui avait encore des bouts de liturgie en araméen, qui ne comprenaient plus du tout, mais qu'ils avaient gardé. Alors cette communauté, donc pré-nicéenne, on dit, c'est-à-dire avant la Trinité, disait dans leur tradition qu'ils remontaient à Barthélemy. Donc on a quand même des traces de quelques-uns de ces apôtres qui auraient évangélisé à gauche à droite. Mais finalement, dans les Actes des Apôtres, ils n'ont pas tant de place que ça. Alors la question, c'est de savoir, alors qu'est-ce que c'est que cette institution d'apôtres ? Est-ce que c'est historique ou pas historique ? Est-ce que c'est réécrit ensuite par Luc, par une tradition plus tardive ? C'est possible, hein ? C'est possible. Qu'il y ait des personnes qui se sentent envoyées, qui ont été nommées par l'Église pour être envoyées, oui. Ensuite, qu'il y ait exactement 12 que Jésus ait choisi, les historiens ont quand même des gros doutes sur la question, l'historicité de ça. Ils y verraient plus une réécriture, justement, à l'époque de Luc. Luc est un disciple de Paul. Et ils ont vraiment à cœur, d'annoncer l'Évangile, de construire des églises, y compris, pas simplement dans le monde juif, mais aussi dans le monde païen, un peu partout. Et donc, ils ont vraiment ça à cœur. C'est pas Paul qui a inventé, si vous voulez, d'aller prêcher aux, aux païens. Ça faisait partie du programme du Messie, de toute façon. Même dans l'Ancien Testament, le Messie est quelqu'un qui réalise les promesses faites à Abraham, qu'à travers Abraham, ben, il y a une bénédiction de toutes les nations. Et puis il annonçait les prophètes, les grands prophètes, plusieurs, Jérémie, Zacharie, que tout homme, toute femme, sous l'ère du Messie, serait elle-même prophète, serait lui-même prophète, recevrait l'Esprit Saint. Et donc c'est la fin du... c'est l'universalisation du prophétisme de toutes les nations, de tous les sexes et de toutes les générations. Ça, c'est ce que réalise le Messie. Donc il y avait bien dans le programme, en disant Jésus est le Christ, il y a bien ce programme d'aller annoncer dans le monde entier la bénédiction de Dieu, l'alliance de Dieu partout. Donc ça faisait partie du programme. Donc c'est pas Paul qui l'invente, comme on peut le lire parfois, mais l'idée même d'aller dans toutes les nations annoncer l'éternel Dieu, ça fait partie de la vocation même d'Israël, si vous voulez, d'être le peuple prêtre parmi les nations et que l'alliance avec l'éternel se répande partout. Bon, c'est les apôtres, à la suite du Christ, en disant Jésus est le Christ, les juifs finalement qui attendaient le Messie s'emparent finalement de cette promesse et vont porter donc l'alliance partout dans le monde. Donc si vous voulez, le concept même d'apôtre me semble plutôt universel en fait, dans ce contexte en fait. Il n'y a pas 12 professionnels qui déchargeraient les autres hein, du boulot, du job. C'est une mission collective. Et à mon avis, si vous voulez, ce chiffre de 12, on le sait bien de toute façon, hein, c'est pour reprendre les 12 tribus d'Israël. Il y a un passage dans l'évangile selon Matthieu, je crois, hein, voilà, où on dit que les douze apôtres, ils seraient assis sur 12 trônes et qu'ils jugeraient les 12 nations d'Israël. Donc, dans le royaume de Dieu. Donc, il y a bien l'idée, si vous voulez, que c'est en lien avec les 12 tribus d'Israël. Et à travers ça, donc, ça veut dire 12 tribus, les 12 apôtres, ça veut dire tout Israël. Tout Israël, mais dans le contexte de la venue du Messie, c'est le grand Israël, c'est-à-dire c'est l'univers entier, c'est l'humanité tout entière qui entre dans cette alliance révélé d'abord à Israël, si vous voulez, ça fait partie du programme. Donc à mon avis, les 12 apôtres, c'est ça que ça veut dire. Le chiffre 12, c'est un chiffre spécial. Et dans la Bible, quand il y a un chiffre spécial, un chiffre rond comme ça, 12, ou 5, ou 7, vous voyez, c'est pas un chiffre qui indique une quantité, c'est un chiffre qui indique une qualité, en fait. Donc il faut faire attention, c'est comme ça que ça marche. Et ça trompait personne à l'époque, donc on peut pas. Donc c'est pour ça, vous voyez aussi que les listes des 12, elles sont un peu fluctuantes. Il y a bon les premiers grands connus, oui. Ensuite, dans les détails, il y a des petites variantes. Hein. Bon, c'est pas très grave, hein, si vous voulez savoir s'il y a Thaddée ou pas Thaddée, s'il y a je sais pas qui, c'est pas si grave. Hein. Alors après, on peut faire des liens entre les différents. On ne sait pas exactement combien il y a de combien il y a de Jacques, c'est un peu difficile, mais c'est pas si grave. Il y avait effectivement des grands témoins, on le sait, c'est-à-dire que Monsieur Pierre, Jean, André et Jacques, le frère de Jean, bon ça c'est sûr. Thomas, Philippe, ils ont encore une personnalité, si vous voulez, on les voit, on les connaît un petit peu à travers les récits. Judas, n'en parlons pas. Donc il y en a un certain nombre qui sont assez historiques. Le Talmud en cite un certain nombre aussi, le Talmud des Juifs, il en cite 4 ou 5, hein, qui peuvent correspondre à un certain nombre de ces noms, mais c'est pas si grave, je crois que le chiffre de 12, c'est d'abord un chiffre symbolique qui veut dire la totalité en fait, qui veut dire une totalité d'humanité. Comme le 12 tribus c'est tout Israël, les 12 apôtres c'est l'humanité tout entière en fait. Alors pourquoi? C'est que si vous voulez 12, c'est un multiple de 3 et 4. 3, ça a toujours été un chiffre divin, un chiffre de Dieu, avant même la Trinité. Je dirais que c'est plutôt à cause de la symbolique du chiffre 3 qu'ils ont développé une notion de Dieu complexe à trois facettes, j'allais dire, à trois façons d'être, ce qui n'est pas idiot du tout, hein, mais c'est symbolique, si vous voulez. On ne peut pas démonter Dieu avec trois engrenages qui sont les trois engrenages de Dieu, ce n'est pas ça. C'est trois façons d'être de Dieu, mais c'est une façon de dire un Dieu qui est complexe, un Dieu qui est en relation, un Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans une case. Alors 3, ça a toujours été le chiffre de Dieu, et puis 4, eh ben, c'est le chiffre de l'universel, comme les 4 points cardinaux, les 4 membres, et donc c'est un petit peu le mélange de Dieu et de l'homme, et ça fait le peuple de Dieu. Donc, je crois personnellement, si vous voulez, quand on parle de ces 12 apôtres, c'est en grande partie pour parler de nous, parler de l'humanité, qui est envoyée, voilà, qui est envoyée dans le monde pour accomplir ben, la vocation du Christ, qui est que l'univers entier soit dans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas forcément que l'univers entier, on fasse des bons petits chrétiens qui cotisent à l'oratoire, bien que pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais... il n'y a pas de verset qui le dise, en tout cas. C'est peut-être une variante à découvrir. Hein. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus universel. Et c'est pour ça que, finalement, le mélange entre disciples et apôtres, il est assez flou, si vous voulez, à mon avis. C'est flou. Alors ensuite, bon, qu'il y ait des personnes qui aient été des personnes importantes dans l'histoire de l'Église, oui, certainement. Ou à la suite de Jésus, par exemple, Pierre... ça fait aucun doute que quand on voit les évangiles, quand on voit... Oh, bonjour. Je vais prendre une petite chaise encore, et puis il y a des feuilles sur la table derrière. Pierre, ça fait aucun doute, si vous voulez, qu'il y a un vrai... Il y a une personnalité derrière, si vous voulez. Pierre, on voit, il est tout feu, tout flamme, il est le premier à se lancer, le premier à... à avoir une superbe confession de foi, à suivre Jésus, à aller chercher les autres, le premier aussi à dire une bêtise quand il y a une bêtise à dire. Mais je trouve que c'est sympa, si vous voulez. Il est vraiment...
Il est sympa.
Ben, dans un sens, moi, je trouve qu'effectivement, c'est assez touchant de voir cet homme ben, qui y va franco, quoi. Vous voyez, il y va avec sa sincérité en bandoulière, hein, et il n'hésite pas, quoi. C'est touchant, je trouve. Ensuite, ben, il y a Jean, peut-être c'est le disciple que Jésus aimait, donc avec cette proximité extraordinaire d'amitié, en fait, avec Jésus. Hein. Thomas et Philippe qui ont plus de doutes, etc. Donc je crois qu'il y a des vraies personnalités, quand même, qui correspondent à des vraies personnes humaines. C'est toujours la difficulté, si vous voyez, dans ces évangiles, c'est qu'il y a un mélange de fonds historiques. Et puis ensuite, eh bien, c'est une mise en récit, c'est une prédication qui vient parler, qui vient nous appeler, qui vient nous dire quelque chose à nous sur notre vie. Donc c'est un mélange, en fait, d'histoire et de prédication. Donc, pour aller ensuite chercher exactement quelle est l'histoire derrière, ben, c'est des hypothèses, mais il n'y a rien de sûr. Par contre... c'est toujours intéressant comme prédication, ça c'est sûr, et ça nous concerne plus dans un sens. Alors pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport aux apôtres, à la histoire? Ah oui, oui, allez-y.
Oui. Moi je l'ai dit essentiellement en 8 secondes et j'ai eu plein de fois de
oui, oui.
J'avais cru comprendre oui. Que l'apôtre posait les bases de l'Église et il y a les 5 ministères que sont l'évangéliste, l'enseignant, le pasteur.
Oui. Alors ça, c'est Paul qui commence à structurer un peu effectivement une première église avec des fonctions et des choses comme ça. Apparemment, c'est quand même... ça, par contre, c'est peut-être du Paul, effectivement. Vous voyez, qui essaye de structurer un peu. Au début, c'est quand même surtout des églises de maison, des gens qui se rassemblent un petit peu. Ah, il y a une feuille qui tourne ou quoi? Je sais pas.
Ça permet de suivre et d'avoir le bonheur d'avoir le lien entre les connus et les nouveaux venus.
C'est vous qui lancez ça, la feuille, non?
Oui, je fais un approche.
Non, non, mais normalement, nous, on fiche pas les gens du tout.
C'est pas pour les fichiers, c'est moi, le bonheur d'être en lien.
Non, il faut... Non, non, il faut pas prendre le nom des, les numéros de téléphone, le nom des gens. Vaut mieux pas. Vaut mieux laisser chacun libre vraiment d'être, d'être tranquille. Hein. Non, non, faut pas faire ça, s'il vous plaît. Non, parce que faut vraiment les gens. Vous voyez, après, on risque d'être dérangé ou je sais pas quoi. Normalement, non, on le demande pas. Si les gens veulent donner leur, leur adresse, ils donnent leur adresse, leur numéro de téléphone, mais on leur demande pas du tout. Il vaut mieux laisser les gens.
Oui,
donc en fait. Ça, à mon avis, c'est Paul qui structure un petit peu son... C'est Paul qui structure un petit peu... C'est son... Qui structure un peu son église. Qui structure un peu son église. Je ne sais pas que je ne vais pas le garder, c'est que si vous voulez, je... c'est privé, on ne veut pas que les adresses des gens circulent forcément, ils n'ont pas à être ennuyés. Nous-mêmes, on ne les prend pas, si vous voulez. Hein. Si vous voulez donner votre nom, votre adresse, votre téléphone, on peut vous envoyer le bulletin, vous pouvez être dans la liste de diffusion de la newsletter, hein, c'est plaisir, mais on ne les donne pas, les noms des gens. Voilà.
On n'est pas fiché.
On n'est pas fiché, voilà. ou on est fiché que si c'est de libre et de son plein gré. Mais voyez, c'est cette question-là, voilà, c'est tout à fait celle de Paul. J'allais dire Jésus, au début, c'était, voyez, j'allais dire c'est un joyeux bordel, mais un peu, voyez. Les gens venaient, ils arrivaient, ils sortaient, ils venaient, ils s'agrégeaient. S'il y en a un qui veut continuer son chemin, il continue son chemin. Paul, lui, il essaye de construire une église. Bon, alors il essaye de mettre en ordre qui va parler, qui ne va pas parler, comment on prend la parole au cours de l'église, en fonction de la ville, ça peut y avoir des variations. Et puis il va essayer d'envoyer des gens pour aller peut-être porter des lettres, pour mettre en lien. Ils vont faire aussi des collectes d'argent dans certains endroits pour des pauvres de Jérusalem. Donc il structure un peu l'église, il commence à structurer l'église, et donc il nomme des fonctions. Mais manifestement, sous Jésus, à part les apôtres, effectivement, où on les voit comme ça donner des fonctions particulières d'apôtres, envoyés donc pour être avec Jésus, pour annoncer l'évangile, et puis pour avoir du pouvoir, pour aider les gens, quoi. Il n'y a pas tellement d'autres fonctions. Ce n'est pas Jésus qui fait des ministres, de prophètes, de je ne sais pas quoi. Pour Jésus, tout le monde est prophète, et on le voit à la Pentecôte, l'Esprit Saint, il est donné sur tout le monde individuellement. Pas sur... Et puis on le voit dans le début des Actes. Ils disent, mais il y a des pauvres. Comment on va faire? Il faut qu'il y en ait qui s'en occupent. Alors ils vont nommer des diacres, ils vont s'organiser pour dire, ceux qui sont pauvres, ils ont besoin de... qu'on s'occupe d'eux, donc ils vont essayer de nommer des personnes qui vont s'en occuper, qui auront ça à cœur, hein. Et c'est normal, on se structure dans une église pour que les boulots soient faits. Il y a un responsable des repas de paroisse, je sais pas moi, du catéchisme, il faut s'organiser. Mais
à la Pentecôte, qui était là à la Pentecôte?
Il y a le 12, il y avait aussi les femmes qui étaient avec, et il y a tout un groupe de disciples en fait qui étaient là finalement, voilà. Et ils reçoivent...
Même les femmes.
Voilà, exactement. Mais de toute façon, ça, Jésus explicitement, il nomme Marie-Madeleine apôtre des apôtres. Donc ça, ça c'est clair. Les 12 apôtres, ça, c'est des mecs. Et c'est les figures des 12 tribus, d'accord. Mais n'empêche que c'est une femme qui est nommée apôtre des apôtres. Marie-Madeleine, elle est envoyée explicitement annoncer l'évangile aux 11 qui restaient dans la chambre haute. Donc, elle est nommée apôtre des apôtres. Une autre femme qui est envoyée par Jésus, c'est la Samaritaine. Il l'envoie chercher les gens de son village. Donc, elle est, littéralement, elle est envoyée. Donc, elle est apôtre. Donc, vous voyez, c'était comme ça. Donc je pense que c'est surtout à partir de Paul que ça se structure en église et où on commence à mettre un peu en ordre. Hein. Voilà. Mais du temps de Jésus, je n'ai pas l'impression. Quand on regarde ces textes, on va peut-être quand même un peu en lire. Hein. Quand on voit ces textes, on a l'impression que c'est un peu à la bonne franquette en fait. On n'a qu'à lire le début justement là. le début, au début du chapitre 5, on a l'impression que c'est vraiment au hasard. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et du bateau où il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je vais jeter quand même le filet. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne de toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. Je te ferai pêcheur d'hommes, on dit dans d'autres traductions. Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors oui, on a l'impression que c'est au hasard en fait. Jésus est au bord de l'eau. Il annonce l'évangile, il y a tellement de monde qu'il monte dans une barque, et puis pas, c'est la barque de Monsieur Simon et de Pierre, et puis il y a les deux ouvriers, ou les deux employés, les deux collègues, qui sont Jacques et Jean, et ça fera les quatre premiers disciples, les quatre premiers apôtres. On a l'impression que c'est au hasard. Alors quand on regarde l'évangile selon Jean, vous regarderez au chapitre 1 de l'évangile selon Jean, je ne sais pas, quelque chose comme le verset 35, je n'ai pas mis dans la feuille, mais bon, vous faites des devoirs de vacances. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, son cousin, et il s'en va. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Était là un disciple de Jean-Baptiste, qui est André, voilà, quel frère de Simon. Et André, il se dit, bah, peut-être quand même que je vais suivre. Et il suit Jésus, et puis Jésus dit, mais que cherchez-vous? Et donc finalement, vous voyez, finalement ils vont suivre Jésus, et puis ils vont revenir, André va revenir vers Simon, et va dire, il va venir vers son frère, et dit, bah, peut-être qu'on a trouvé le Messie. Si j'étais toi, j'irais voir. Donc vous voyez que ça ne se passe pas pareil, parce que manifestement, ici, c'est un peu un hasard, que Jésus se trouve là. Et puis, il profite de l'occasion. Il sent avec sa sensibilité que là, il y a du potentiel, quoi. Mais on a l'impression que Jésus n'a rien calculé, en fait, vous voyez. Ça se trouve là, finalement. Il a cette occasion. Il est pressé au bord de l'eau. Il monte dans la barque. Et puis, il va recruter ces hommes qui sont là. Mais c'est un peu... C'est un peu l'occasion, c'est un peu la chance. Et puis ce Jésus qui... Vous voyez qu'on a l'impression qu'il navigue à l'intuition un peu. À l'intuition ou alors à l'Esprit-Saint, si vous voulez. Ce qui, à mon avis, est un peu la même chose, en l'occurrence. Ou alors il voit là un signe, des gens qui pêchent des poissons. Et de ce signe, mais entre un signe et quelque chose qui vient de Dieu, bon, ça peut être des fois des hasards, des fois ça peut être des signes, je ne sais pas moi. Et en tout cas, de ça... Il va se lancer et recruter ces hommes. Alors que dans l'évangile selon Jean, non. C'est les hommes qui cherchent et qui finalement vont suivre Jésus. Alors qui a raison, qui a tort? Parce que là, c'est pas pareil, si vous voulez. On n'en sait rien historiquement, si vous voulez. Sauf que moi, le plus plausible quand même, c'est que Jean ait raison. Et que Luc, il réécrive... un petit peu cet itinéraire en mettant en scène, en mettant en place ces têtes de l'Église qui sont là, en particulier Pierre et Jean, et puis les deux frères, un peu moins, mais quand même, André et Jacques. il met en scène pour montrer qu'ils sont là dès le début et que donc c'est normal que dans l'église, dans la première église, ils soient des colonnes, ils soient considérés comme importants, si vous voulez. Parce que, alors est-ce que c'est, comment dire, c'est une, comme une prédiction, mais une prédiction, puisque Luc, quand il écrit ça, il l'écrit après qu'elle se soit réalisée, donc c'est un petit peu, si vous voulez, il réécrit l'histoire. Sinon, je ne vois pas très bien pourquoi Jean aurait transformé, si vous voulez, le début de cette histoire, par exemple de Simon en particulier, qui est quand même un disciple majeur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si vous voulez, qui était un des disciples quand même majeurs du temps de Jésus. Un peu moins après, dans l'histoire de l'Église, où il perd son grade, après avoir fait des bêtises, peut-être trop autoritaires, hein, je ne sais pas. Donc je ne vois pas pourquoi Jean aurait comme ça... abandonner finalement, donner le contrôle plus à des disciples de Jean-Baptiste qui ont l'initiative de chercher Jésus plutôt que de donner le premier rôle à Jésus qui là finalement va les recruter avec sa propre initiative. Ce serait étonnant si vous voulez de transformer dans ce sens-là. Alors qu'on peut trouver effectivement des raisons historiques, des motivations pour Luc qui réécrive et qui donne comme ça, qui fasse en premier le... Jésus qui discerne ces personnes-là en particulier et qui va à travers cet épisode-là leur offrir comme une sorte de formation express et à travers cette image d'être pêcheur d'hommes, eh bien exprime à mon avis là une très belle prédication. Ces hommes étaient pêcheurs de poissons et il en fait des pêcheurs d'hommes. Alors on pourrait dire ceux qui sont médecins. Médecin des corps, et ben vous dit, mais voilà, tu seras médecin de l'âme. Ceux qui sont, Et puis alors là, effectivement, tout est très très beau, si vous voyez, dans ce passage. C'est un sacré retentissement, absolument, oui.
Mais un autre passage dans la Passion, où on dit que Jean, il me semble que c'est le même, est un parent du grand prêtre.
Pêcheur de poissons.
Oui.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un peu étonnant, oui. Mais il peut être cousin, il peut être vaguement cousin, ou par alliance, enfin, par alliance, je ne sais pas. Parce que s'il est de la famille des grands prêtres, c'est quand même, il est d'une tribu spéciale. Je ne sais pas si on se mariait, je ne sais pas. Hein. Si on pouvait être... Bon, je ne sais pas très bien.
Il y a un souci de cohérence, puisque Pierre, Jacques et Jean, ce sont les mêmes qu'on voit pour la Transfiguration.
Oui.
Et donc, c'est vraiment... Les trois qui sont dans les moments cruciaux.
Oui, alors on sait que c'était les proches des proches.
Voilà.
Et puis, alors ce Jacques qu'on voit là, c'est pas le Jacques de l'église de Jérusalem. Le Jacques de l'église de Jérusalem, c'est le frère de Jésus qui est le chef, en fait, qui devient chef.
Ah, c'est pas le même Jacques.
C'est pas le même Jacques, en fait.
Celui-là, alors c'est le Jacques de...
Ça, c'est le Jacques apôtre, le frère de Jean, c'est le
c'est
fils
le
de Zébédée.
De
alors, je suis pas sûr, parce que le Jacques de Compostelle... À mon avis, s'il a eu tant de succès, c'est parce qu'en fait, il était ami des pauvres, en fait. C'était le patron des pauvres gens. Et effectivement, c'est la lettre de Jacques, en fait, où il y a quand même, où il n'y va pas de main morte. Hein. Il dit, mais quand même, bon, on annonce l'évangile, ça n'empêche que quand vous laissez crever votre frère de faim, et que voilà, vous êtes des salauds, quand même. Donc il y va quand même, il est très social.
Et le Jacques
de Saint-Jacques de Compostelle, mais c'est le frère de Jésus, c'est le Jacques frère de Jésus, je pense, oui. Bon, mais c'est un peu mélangé les Jacques, hein. c'est un peu compliqué, mais donc on n'est pas complètement hyper sûr. Mais là, si vous voulez, bon, c'est vrai que dans cet épisode, je trouve qu'il y a quand même un chose de très intéressant, et vous le faites remarquer, il y a un million de petits détails qui sont extrêmement significatifs, si vous voulez, hein, dans cette histoire. Pressé par la foule, on pourrait dire, il y a une nécessité peut-être aussi d'avoir des relais, de ne pas rester seul. Jésus, on a l'impression, si vous voulez, quand même, il navigue à vue, si vous voulez, là-dedans. Pressé par la foule, peut-être qu'il se rend compte tout d'un coup qu'il ne va pas s'en sortir tout seul, qu'il y a beaucoup de monde, en fait, sur Terre, quoi. Qu'il annonce un peu, mais qu'ils sont trop nombreux, quoi, et qu'il ne pourra pas, qu'il va être débordé, en fait.
Hein? Même qu'il y a trop de poissons.
Tellement que ça déchire les filets, qu'il faut appeler d'autres à la... Et puis qu'il faut chercher d'autres barques et d'autres personnes pour aller à la rescousse et pour tout prendre, si vous voulez. Donc à mon avis, tout ça, ça invite à, ça explique que Jésus doive prendre des relais finalement. Hein. Et aussi, si vous voulez, ça c'est quand même assez humain, ça montre que Jésus, avec ses propres forces, il ne peut pas s'en sortir d'aller évangéliser le monde entier, c'est clair. Il ne peut pas aller évangéliser à la fois les Papous, les Esquimaux, et tout bien leur expliquer. Donc, il va se concentrer sur une priorité de former des disciples, oui.
Est-ce que c'est déjà pas le début de la préparation après lui?
Ben si, c'est la préparation après lui, mais en même temps, si vous voulez, ces textes, ils sont écrits après lui, en fait. Ces textes des évangiles, ils ont été écrits, quand l'Église se structure, en fait. C'est un peu, si vous voulez, ces évangiles, c'est un peu comme maintenant, ou les 10 dernières années, où on se précipite de recueillir les témoignages des gens qui ont été dans les camps d'extermination, les camps de concentration, ou qu'on a recueilli les dernières paroles de poilus, si vous voulez, avant que les derniers combattants de la Première Guerre mondiale ne meurent. Là, c'est pareil, c'est au moment où les apôtres disparaissent, qui vont vraiment recueillir tous les témoignages, les petits bouts de paroles de Jésus, et qui vont les rédiger. Donc, c'est à l'époque, où aussi ils structurent l'Église et où ils essayent de recueillir ces témoignages. Donc, c'est écrit dans un contexte, si vous voulez, ces textes.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'écrit qui a refusé.
Alors, Jésus n'a pas laissé d'écrit. C'est possible, c'est vraisemblable que du vivant de Jésus, les gens prenaient des notes d'une parole, d'une parabole, d'une parole de Jésus. Ils prenaient des notes.
Selon ce qu'ils voyaient et
selon ce qu'ils entendaient. Et donc, ils ont fait des recueils de paroles de Jésus, c'est très vraisemblable, parce que ça se faisait beaucoup avec les rabbis qui existaient, les enseignants, et les gens prenaient un peu des notes sur un bout de poterie avec un clou, ou bien sur un bout de une omoplate de chameau, il y a la place, ou un bout de papyrus, mais ça garde moins bien, si vous voulez.
Parce qu'il y a toujours une interprétation personnelle.
Il y a une interprétation personnelle.
Quand on répète ce qu'on croit que quelqu'un dit, il y a toujours une interprétation personnelle.
Il y a une interprétation. Et puis même s'ils prennent les paroles de Jésus, ils les mettent ensuite, l'évangile s'est rédigé, si vous voulez.
Voilà,
il y a une intention quand même. Ils se disent, je vais écrire ça. Pourquoi est-ce que ça prend la peine d'écrire un bouquin comme ça? C'est dans un contexte. On se dit, c'est pour transmettre cela. Et puis, ils pensent à une communauté, en fait. Et donc, il y a une intention derrière.
Mais quand on a découvert les apocryphes au milieu du XXe siècle, justement, on a comparé les apocryphes de ce qu'on avait reçu. Et en fait, je ne suis pas un spécialiste, mais il m'a semblé qu'il y avait une vraie cohérence entre les deux, ce qui fait que finalement, la Bible telle qu'on la connaît nous est arrivée sans modification.
Alors pour les manuscrits, effectivement, par exemple pour l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on a découvert par exemple un morceau du rouleau d'Ésaïe. C'est vrai que c'est extraordinairement proche des manuscrits qu'on avait, du texte de l'Ancien Testament qu'on avait. Et ça, c'est quand même touchant parce que on a découvert tout d'un coup des manuscrits qui avaient, qui étaient 1000 ans plus vieux que ceux qu'on avait pratiquement, si vous voulez. Hein. Donc c'était quand même très touchant qu'il y ait cette fidélité de copie. Ensuite, pour les évangiles, il y a des variantes qui existent. Et justement, là, je vous en ai mis une importante, qui est sur la troisième page, qui est en italique, là. Il y a des variantes qui sont importantes, mais il n'y en a pas énormément. Mais cela dit, on sait quand même la date d'un certain nombre d'ajouts qui peuvent exister. On connaît à peu près quand même la date de rédaction de ces évangiles. On le connaît un petit peu en fonction de la langue, en fonction du contexte, en fonction des différents épisodes qui sont reportés. Et puis avec des histoires comme ça, vous voyez, l'histoire du statut des apôtres, on essaye de se placer dans ce qu'on connaît de l'histoire de l'Église. Quand est-ce que ce genre de notion a pu être importante? Et donc, à peu près, à quelle époque est-ce que ça a pu être rédigé comme ça? probablement, je ne sais pas moi, dans, peut-être en 50 ou quelque chose comme ça pour ces textes. Ensuite, il y a eu plusieurs couches, hein, il y a eu des modifications un peu après.
Et la fameuse source Q, pour vous, c'est une hypothèse qui permet aujourd'hui de mieux expliquer sous forme d'arborescence, ou bien ça pourrait avoir réellement existé?
Moi, je ne crois pas tellement à l'histoire de la source Q. Oui, ça, c'est les savoirs. Il y a trois évangiles qui sont très proches. Matthieu, Marc et Luc qui sont très proches. On l'appelle les évangiles synoptiques parce que beaucoup de textes, d'épisodes sont communs aux trois. Et Jean est à part et un peu spécial. Donc ensuite, on cherche quelles étaient les sources communes aux trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et on appelle, certains spécialistes ont inventé une source qui n'est justifiée par rien d'autre que leurs propres hypothèses. Et l'hypothèse des exégètes dure ce que durent les roses. Hein. Ça fleurit le matin et le soir, c'est fané. Hein. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas s'énerver trop. Hein. Quoi ? C'est en allemand, ça veut dire « quelle », qui veut dire « la source », non ? Je ne connais pas l'allemand.
Ah oui, ça veut dire ça, oui.
Mais cela dit, donc ils ont imaginé ça. À mon avis, ça ne repose sur aucune logique solide. C'est pas parce qu'un texte se trouve dans les trois évangiles qu'ils étaient à la base dans une source commune. Donc il y avait des textes, oui. Et puis surtout, il y avait des prédicateurs itinérants. On voit Pierre, qui était un témoin de Jésus, des visus, qui se promène partout et qui annonce l'évangile, qui raconte ses souvenirs. Et puis on voit que d'autres aussi tournent. Il y a Jean, il y a Philippe, il y a des diacres aussi hein, qui tournent. Et ils tournent et ben, ils vont annoncer leurs souvenirs à eux. Et donc si deux personnes différentes sont passées dans deux villages et on dit tous les deux un souvenir de Jésus qui les marque, ben, ça va se retrouver. C'est pas une source commune, c'est deux sources différentes qui vont se retrouver à être commune à plusieurs évangiles, à plusieurs narrations, plusieurs rédactions.
C'est une hypothèse matricielle.
C'est une hypothèse, voilà, ça peut être...
Et non plus
une seule source, parce qu'on le retrouve dans les trois évangiles, ça fait partie d'une source commune, ben pas forcément, ça peut être plusieurs témoins qui sont passés des endroits différents, ce qui correspond à ce qu'on sait, finalement, de la manière de fonctionner de l'époque. Voilà.
J'ai encore une autre question.
Oui.
Annoncer une nouvelle, mais on ne voit nulle part qu'il a l'intention de fonder une église.
Alors ça, c'est sûr. Alors bon, c'est ce qu'on pense, en tout cas. On le voit nulle part, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même le passage où il dit à Pierre, quand Pierre, justement, fait une belle confession de foi, tu es Pierre, et sur cette pierre, bon, alors effectivement, tu es roc, et sur cette roche, parce que c'est pas le même, tout à fait la même, c'est pas le même genre, hein, je bâtirai mon église. On a quand même des doutes, parce que le concept même d'église, on pense que c'est plus tardif. Et que à la fin de l'évangile selon Matthieu, il y a marqué: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai raconté. On a des gros doutes, d'abord parce qu'on sait que les gens au début, ils étaient baptisés non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais simplement au nom de Jésus, on le voit dans les Actes des Apôtres. Donc si Jésus leur avait dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pourquoi ils feraient le contraire, j'allais dire quatre pages plus loin, mais mettons cinq ans ou un an après, c'est étonnant. Deuxièmement, on sait que Jésus ne baptisait pas, c'est ce que nous dit l'évangile selon Jean. Pourquoi ? Enfin bref, c'est un peu discutable. Alors on se dit, voilà, ça a été écrit plutôt un peu plus tard. Donc ça a été, on sait que la fin de l'évangile selon Marc, elle n'existait pas dans les anciens manuscrits, ça a été rajouté après. On sait que la fin de l'évangile selon Jean, ça a été rajouté après. Que ça se terminait en Jean 20, 30, 31, Jean termine son texte en disant « Voilà, j'ai fini mon texte, j'ai tout bien raconté », puis hop, il y a encore un rebondissement, il y a une nouvelle apparition de Jésus. Une apparition de Jésus comment ? Avec une multiplication aussi des poissons, comme ici, et puis Pierre, qui est vraiment réintégré après son reniement par Jésus comme étant la mission d'être pasteur de... des disciples de Jésus. Et donc, si vous voulez, cet épisode de la finale de l'évangile selon Jean, elle correspond à ce début de Pierre dans l'évangile selon Luc. C'est quand même étonnant. Il y a aussi une multiplication des poissons, une pêche miraculeuse, on dit, voilà. Et puis, il y a Pierre qui est avec d'autres, mais Pierre principalement, hein, qui était, c'est lui quand même qui est nommé vraiment à plusieurs reprises, hein, qui intervient dans le dialogue et qui devient apôtre. Donc vous voyez, c'est un rapprochement. Alors ensuite, entre l'itinéraire de Pierre dans l'évangile selon Jean, où c'est lui qui cherche avec... non, c'est d'abord André qui cherche, qui appelle son frère Pierre, qui est converti. Tout le passage où il n'y a pas tellement de nomination d'apôtre dans l'évangile selon Jean. Et puis cette finale rajoutée plus tard qui fait de Jean encore avec cette image de la pêche miraculeuse, de Pierre un disciple important, ça me semble plus vraisemblable, si vous voulez. Puis ensuite, la réécriture de Luc pour valoriser la fonction d'apôtre. C'est quand même assez vraisemblable que ça se passe dans ce sens-là, si vous voulez. Alors ensuite, les apocryphes, il y a quelques apocryphes qui ont été trouvés qui sont super. Par exemple, l'évangile selon Thomas est vraiment très intéressant. Parce qu'il y a on a l'impression de voir des recueils de paroles anciennes de Jésus mélangées avec de la pensée un peu gnostique, donc une pensée un peu étrangère, à mon avis, au courant théologique et spirituel qu'est Jésus. C'est ce qui fait que c'est un peu compliqué, Thomas. C'est pas tout à fait aussi pur que ça, quand même. Où là, vraiment, on a quelque chose qui est bien dans la lignée de la foi de Jésus, quoi. Thomas, c'est un peu plus compliqué.
J'ai lu aussi, c'est ça l'apocryphe que j'ai lu, celui de Thomas.
Oui.
Et je le trouve tout à fait dans la même tonalité que la Bible. C'est pas écrit de la même façon. Les grandes idées sont les mêmes.
Oui.
Il y a une variante qui, là, pour le coup, m'a un peu stupéfait quand je l'avais lu. C'est que, Jésus ne confiait pas son église à Pierre et à Jacques. Quand je l'ai lu, j'étais un peu stupéfait. Mais ça ne change pas fondamentalement l'histoire de l'Église depuis. Mais c'était quand même, c'est quand même impressionnant.
Ça peut être impressionnant. Et puis, c'est vrai que quand même, il y a des passages qui sont un peu gnostiques, c'est-à-dire qui présentent la bonne voie, la mauvaise voie, et puis il y a une histoire un peu de niveau, un peu de créatures, avec des créatures, un peu des niveaux spirituels, etc., qui sont quand même un peu étrangers, si vous voulez, à mon avis, à la façon de voir de Jésus, mais... on a tout à fait le droit. Il y avait dans l'Église primitive, contrairement à ce qu'on pense, il y avait plein de courants, en fait, hein, évidemment, et des sensibilités différentes, plus ou moins charismatiques, plus ou moins juives, plus ou moins peut-être un peu une sensibilité un peu monastique, genre Saint Jean-Baptiste, des courants plus spiritualistes. Et libéraux comme Jésus, finalement. Hein. Voilà.
En fait, beaucoup de chrétiens fréquentaient la synagogue, ils se considéraient comme des juifs.
Alors, au début, tout à fait, oui.
Au début, jusqu'à ce qu'ils aient été expulsés de la synagogue. Enfin,
mais même avant qu'ils soient expulsés, ils sont expulsés en 70, mais largement avant, il y avait beaucoup, beaucoup, voilà, on le voit assez rapidement, même peut-être du vivant de Jésus avec la syrophénicienne. Si vous voulez, il y avait quand même une. La vocation, si vous voulez, à mon avis, à travers le Messie, à une universalité de ce mouvement. Alors ensuite, les autres apocryphes sont, à mon avis, pour la plupart, beaucoup moins intéressants quand même, et moins intéressants, d'abord souvent beaucoup plus tardifs, avec plein de petits récits miraculeux qui ne sont pas passionnants, quoi. Mais il y a des lettres qui sont intéressantes, hein, ce qu'on dit les pères apostoliques. C'est vraiment la première génération, pas la première génération, la première génération après les témoins directs de Jésus, quoi. Mais enfin bref, si vous, dans le début là, on a une formation un peu des disciples. Il y a un peu un type de formation qui me semble quand même intéressant à suivre là, dans ce qui est donné. De ce premier disciple, ils tombent au genou de Jésus. Alors ça, je le dis souvent, hein, vous savez, le genou, c'est pas rien, si vous voulez. C'est le genou, c'est d'abord le même mot que la bénédiction, et le genou, c'est ce qui fait un peu une articulation, si vous voulez. C'est pour ça que le mot bénédiction est le même que le mot genou en hébreu. Mais même, si vous voulez, le genou, c'est aussi le lieu de l'accouchement. Hein. Par exemple, quand Abraham fait un enfant, j'allais dire à sa femme, par le biais de sa servante, Agar, elle accouche sur les genoux de Sarah, voyez, comme si l'enfant venait d'elle. Donc, dans un sens, il y a une sorte de filiation de Simon-Pierre qui se met aux genoux de Jésus comme pour se reconnaître son enfant, finalement, son disciple, voilà, et en même temps qui a ce travail de aux genoux, ça veut dire à la bénédiction, dans une bénédiction avec Jésus, quoi, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose je pense, de significatif de ce rapport. Et je vous ferai pêcheur d'hommes, mais en fait, c'est Jésus qui est à la pêche lui-même, là, à la pêche des humains, bon, pas pour les manger, c'est un peu la limite de ces images, mais pour les ramener à la lumière, pour les garder, et puis il les envoie ensuite pêcher, donc aller faire des disciples, c'est un peu l'idée de la question. Alors ensuite, cet effroi, ben, c'est normal, ça veut dire qu'ils se sentent vraiment en présence de Dieu. Donc c'est déjà un Jésus un peu divin, ou en tout cas qui représente ben voilà, ce qui vient de Dieu. Alors ensuite, si l'épisode du lépreux, si vous voulez, c'est étonnant, parce que cet homme, il est donc, par hasard, Jésus tombe dessus, il demande la guérison. La lèpre, normalement, quand on est lépreux, c'est qu'on a été médisant, en fait. C'est le signe, c'est la conséquence de la médisance. Enfin, en tout cas, dans l'opinion de l'époque, hein. On sait que c'est pas tout à fait comme ça physiquement que ça marche la lèpre en fait, mais c'était comme ça parce que Moïse et Myriam, sa sœur, tous les deux deviennent lépreux quand ils ont médi en fait, et donc ils pensaient que c'était comme ça. Donc c'est un homme pécheur avec une mauvaise parole, pécheur par une mauvaise parole finalement, une parole méchante, une parole qui dit du mal de son prochain, et donc il est guéri, donc ça exprime un pardon. Et puis, même dans ses conséquences, il est envoyé vers les prêtres. Donc, il y a la place là d'une religion, mais la religion, elle n'est pas tellement là pour sauver, mais simplement, c'est une occasion de rassemblement où on peut témoigner de quelque chose, témoigner de la puissance d'un pardon de Dieu, finalement. Alors voilà, et donc il est chargé de ne pas finalement parler, c'est étonnant, hein, défense de parler, mais de manifester sa guérison. Et donc c'est peut-être là un modèle du disciple, si vous voulez, c'est se sentir pardonné, et puis témoigner finalement, pas tant en récitant peut-être des versets, que de montrer à quel point l'évangile et le pardon de Dieu en particulier nous a guéris, nous a transformés, le sentiment d'être juste et d'être bon aux yeux de Dieu. Et cette idée du pardon, finalement, elle va sans arrêt traverser, si vous voulez, à mon avis, en particulier le rôle des disciples. Le disciple de Jésus, il est envoyé finalement annoncer le pardon. Et ça aussi, c'est ce qu'on voit dans l'évangile selon Jean. Dans Jean 20, quand Jésus arrive, il a dit « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie ». Donc il y a cette continuité. Et portez le pardon. Là où vous pardonnerez, les gens seront pardonnés, et là où vous retiendrez le pardon, il sera retenu. Ça ne veut pas dire que l'Église doit, si vous voulez, exercer comme ça cette pression, ce chantage, ou se faire juge des gens. Moi, j'y verrais plus l'idée, mais si vous n'annoncez pas le pardon, il n'y aura personne pour le leur dire, et les gens resteront dans cette culpabilité, dans cette peur de Dieu. Et donc, il y a un enjeu de vie ou de mort dans votre façon d'annoncer, pour libérer les gens, pour qu'ils se sentent purifiés, qu'ils puissent aller vers l'avant. Et puis ici, le fait d'aller dans l'église, au temple, voir les prêtres pour manifester à quel point nous sommes, j'allais dire, purifiés par la parole de Dieu, finalement, par le pardon de Dieu, par la relation directe avec Dieu, à mon avis, ça se replace bien dans le contexte aussi, bon, et du ministère de Jésus. On le voit concrètement, bon, on le voit un peu plus loin, on n'aura pas le temps parce que j'ai trop bavardé, mais il va dans la synagogue pour prêcher, en fait, pour manifester justement ce pardon, cette puissance de guérison, qu'est le pardon de Dieu, qu'est l'amour de Dieu. il va pour ça. Et puis ensuite, on voit Paul, on voit, et Luc était un disciple de Paul, hein, aller dans les synagogues pour annoncer Jésus-Christ. Ce qui, effectivement, à mon avis, a aussi peut-être légitimé que la synagogue en ait eu marre à la longue. Et que... ils ont été même patients, parce qu'ils ont attendu quand même 40 ans pour dire « ça suffit, maintenant, on arrête hein, ».
40 ans.
Quoi ?
Pourquoi 40 ? Parce,
parce que Jésus est mort grosso modo en l'an 30, à la louche. Et c'est en 70 que la synagogue a chassé les chrétiens.
Mais je crois que c'était l'époque où justement les juifs ont été chassés par Rome, enfin, où on a détruit le temple, non, enfin...
Voilà, après ça, il y a eu des turbulences, et puis les juifs ont dit, maintenant ça suffit, les chrétiens, même les juifs qui croient en Jésus, on leur a dit, écoutez, vous faites votre synagogue à côté, ça sera bien comme ça. Ce qui est quand même un peu compréhensible, parce que les chrétiens, effectivement, ils allaient à la synagogue, un peu comme on le voit ici, pour prêcher Jésus, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense que ça suffit. Vous pourrez peut-être suivre le reste de ces textes et essayer de voir quelle est la figure du disciple, qu'est-ce que peut faire le disciple, quel est le rôle du disciple ici de Jésus dans l'idée de suivre Jésus. Et il y a, dans l'itinéraire entre les premiers disciples, les premiers apôtres appelés jusqu'à la nomination, là, on voit cette liberté, finalement, cette sincérité à laquelle Jésus invite, je pense, vraiment chacun dans son itinéraire, dans sa mission, dans le rapport à la religion aussi. Et ça peut nous donner des pistes. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut lire le texte, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que moi ça me dit, qu'est-ce que ce texte me dit sur mon envie d'apporter... de me sentir envoyé dans le monde, porter quelque chose. Ensuite, Jésus ne nous dit pas quoi, en fait, tellement, si ce n'est le pardon, si ce n'est que chaque personne se sente digne d'avancer. Voilà.
De manière comme il a parlé en parabole, ça laisse une grande ouverture.
Il y a une grande ouverture pour l'interprétation personnelle en fonction de ce qu'on est, des personnes qu'on rencontre.
Il a battu juste des fois, ceci, cela, cela.
Oui, et puis, parce que c'est bien, parce que tout le monde a des talents différents, il y a des gens qui sont plutôt expansifs, d'autres qui sont plutôt introvertis, d'autres qui sont musiciens, le troisième qui est doué pour l'écriture, vous savez, chacun son style aussi, et donc c'est à trouver dans une vocation personnelle, voilà, mais il y a quand même là des grandes lignes, et puis cette articulation à laquelle Jésus nous invite, mais pas se sentir lié par des fonctions, des choses comme ça. On est tous apôtres, aussi nombreux sommes-nous. Donc voilà, bonne route, et puis à tout bientôt.